Amen. Ça va bien ce matin? Moi aussi, ça va bien. J'ai pas oublié de mettre mes dents. Jeudi matin, j'arrive au bureau. Pourtant, ma femme, quand elle m'embrasse, bonne journée, elle fait « Montre-moi si t'as des dents. » Mais je n'avais pas fini de boire mon café, puis je ne voulais pas que ça tâche. Bref, j'arrive au bureau, puis je n'avais pas mes dents. Là, je n'étais pas dedans. Oui, c'est ça, Robert, c'est ça. Fait que là, je regardais pas trop le monde. Là. Bonjour, Mme Tremblay, comment ça va? Jusqu'à temps que Lorraine arrive avec mes dents. Alors, l'Église, la famille de Dieu, pour ceux qui sont là pour la première fois, on est dans une série sur la famille de l'Église. Et ici, le verset thème, on le répète ensemble. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni les gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » L'Église, c'est une famille. Ce n'est pas la bâtisse, ce sont les gens. Nous sommes une famille pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. Et puis, ce matin, moi aussi, je vais vous raconter une petite histoire de l'Ancien Testament. Richard nous a lu une petite histoire de l'Ancien Testament en guise d'introduction. Ça se passe dans la vie de David. Le roi David, tout le monde connaît? Bon, pas mal tout le monde connaît le roi David. Et puis, à un moment donné, lui, il avait été précédé par le roi Saül, qui était méchant envers lui, qui le pourchassait et qui même a essayé de le tuer plusieurs fois. Son fils Jonathan, à Saül, était le meilleur ami à David. Et puis, David avait été oint roi par Dieu, mais Saül était toujours en poste. Puis éventuellement, Saül a été tué par ses ennemis, les Philistins, et son fils Jonathan aussi, le meilleur ami à David. Fait que là, David est installé sur le trône, puis plusieurs années plus tard, dans le 2 Samuel, chapitre 9, vous n'êtes pas obligé de tourner, mais David, il dit, « Y reste-tu quelqu'un de la famille de Saül à qui je pourrais faire du bien à cause de Jonathan, mon meilleur ami. » Puis là, il y avait un serviteur qui s'appelait Tiba, un serviteur de l'ancien roi de Saül. Puis David l'a fait venir, il dit, « Y a-tu quelqu'un de la famille de Saül qui reste encore? » Et puis, dans ce temps-là, les rois qui accédaient au trône, qu'est-ce qu'ils faisaient d'habitude? Il zigouillait, c'est le mot exact. Merci, Sandra. Il zigouillait tous les descendants des rois précédents. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas avoir de rival. Hein? Mais là, David, c'est pas ça. Il s'interroge pour savoir est-ce qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Puis le serviteur dit oui, il reste un fils de Jonathan. C'est un handicapé. Sa nourrice l'a échappé en courant, en essayant d'éviter les ennemis, puis il reste à telle place. Puis David le fait venir, puis il fait « Méphibosheth! » Et là, Méphibosheth, là, tremblait, là, hein? Sûrement. Et puis il dit « Aie pas crainte. » C'est ça qu'il dit. « Je te rendrai parce que je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. » Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras tous les jours à ma table. » Et Mephibosheth se prosterna et dit, « Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Et puis, dans la suite des choses, on voit que Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Pourquoi j'ai conté cette histoire-là de David et Mephibosheth, parce que ça illustre bien le sens de ce qu'on a vu à date dans la série. Ce qu'on a vu à date dans la série, c'est que l'Église, comme je disais tantôt, ce n'est pas une bâtisse, c'est une famille. Le fondement de la famille, c'est le père. pour intégrer la famille, il faut que tu sois en relation avec le Père pour faire partie de la famille. C'est Dieu le Père qui, par l'entremise de l'action rédemptrice de Christ à la croix, qu'est-ce que ça veut dire rédemptrice? C'est que tu payes le prix pour racheter quelque chose. Hein? Bien, Dieu le Père pardonne tous ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui se tournent vers Christ pour être pardonnés, et non seulement pardonnés, mais ceux qui étaient là? Exactement, déclarés justes. La justice de Christ est imputée et déposée dans leur compte. C'est formidable, c'est extraordinaire, c'est inimaginable. Dieu leur fait grâce, comme David l'a fait avec Mephibosheth. Normalement, Mephibosheth, il se serait attendu à quoi, dans le fond? À être exécuté. Et non, David, il a usé de grâce, de bonté. Il l'a adopté comme son fils. Il l'a fait manger à sa table comme un de ses fils. Dieu, en nous adoptant comme ses enfants, ce qu'on a vu à date, envoie son esprit dans leur cœur et leur donne une nouvelle identité, une nouvelle liberté, un nouvel héritage et une nouvelle intimité. On a vu tout ça dans Galates chapitre 3 et 4. Ce matin, l'Esprit m'a conduit à adresser la question suivante. Qu'est-ce qui caractérise un enfant de Dieu? Ou encore, à quoi reconnaît-on un enfant de Dieu? Quelqu'un qui fait partie de la famille de Dieu. Quelles sont les caractéristiques fondamentales d'un enfant de Dieu qui fait partie de sa famille? OK? Est-ce qu'on va voir, on va voir ce matin, par rapport à ce point-là, l'enseignement de Jésus, l'exemple de Jésus et, finalement, l'engagement de Dieu envers toi et le tien envers lui. Fait que j'aimerais vous demander de tourner dans l'Évangile de Marc, ceux qui ont une Bible, sinon dans vos téléphones, dans vos tablettes, vous pouvez suivre avec quelqu'un, vous pouvez tout simplement écouter. Marc, chapitre 3. Verset 31. Marc, chapitre 3, verset 31. Et on va lire ceci. La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Bon, Jésus, il est où? Il est dans une maison. Il est en train d'enseigner, de guérir des malades, puis il y a beaucoup, beaucoup de monde. Fait que la maison est bourrée de monde, puis il y a du monde alentour. Je ne sais pas combien de centaines de personnes ou de milliers de personnes qu'il pouvait avoir là. Mais voici la mère, les frères de Jésus arrivent. Ils sont dehors et ils envoient quelqu'un l'appeler. Appeler Jésus. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire, « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit, « Qui sont ma mère et mes frères? » Et promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » Prions. Souverain roi de l'univers, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, Seigneur, ce matin. Toi, la lumière du monde. Dieu de lumière, de qui descend toute grâce excellente, tout don parfait. Souverain créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y meuve, des lois invisibles et immuables de la nature et de nous. Béni soit ton nom, Père. Glorifie ton Fils Jésus ce matin. Parle à nos cœurs, révèle-toi. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation pour te connaître, Seigneur Dieu. Qu'on fasse silence devant toi. L'Éternel est dans son Saint-Temple.
que toute la terre fasse silence devant lui. Pour la gloire de Jésus. Amen. Fait que Jésus est en train d'enseigner dans une maison, guérir les malades, puis sa famille s'en vient de le chercher. Si on remonte au verset 21, on va trouver pourquoi ils sont venus le chercher. Verset 21. Qu'est-ce qu'il est dit? Les parents de Jésus, sa famille, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Sa famille pensait que Jésus était viré fou. C'est pour ça qu'ils sont venus le voir, pour le trouver, pour le ramener à la maison. Une autre version, quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient, en effet, il est devenu fou. Ce n'est pas juste aujourd'hui que les gens se moquent de Jésus. Même de son vivant, les gens se moquaient de Jésus. Ce n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, les gens se moquent de Jésus. Et si tu t'identifies à Jésus, il se peut qu'on se moque de toi. Ça m'est arrivé et ça m'arrivera encore sûrement. Donc, ce matin, j'ai l'habitude de faire, vous dire le punch de mon message. L'engagement envers Dieu, le Père, à lui ressembler et à faire sa volonté par amour, est une caractéristique fondamentale de chacun de ses enfants véritables. Si on essaie de répondre à la question, quelle attitude caractérise un enfant de Dieu? À quoi reconnaît-on quelqu'un qui fait partie de la famille de Dieu? Bien, voici l'enseignement de Jésus. Jésus dit, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. C'est ceux qu'il appelle ses frères, ses sœurs, sa mère. Ceux qui vont faire la volonté de Dieu. C'est pas comme ça qu'on devient enfant de Dieu, mais c'est à ça qu'on reconnaît un enfant de Dieu. C'est comme dans la nature, là. Tu ne deviens pas enfant de William et Laurence en essayant de plaire à William et Laurence. Non. Tu nais dans leur famille, et après, puisque tu nais dans leur famille, bien, tu veux faire comme eux, si ce sont des bons parents. Hein? Et ils le sont. Ils le sont. Rappelons-nous aussi la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. On appelle ça souvent le Notre Père, mais en fait, on pourrait l'appeler la prière des disciples, parce qu'ils ont demandé à Jésus, « Apprends-nous à prier. » Alors Jésus a dit, « Voici, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Une autre version, « Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. » Le mot « sanctifié », ça veut dire « mis à part ». C'est ça que ça veut dire « mis à part ». Donc, quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que, justement, que tu sois reconnu comme étant Dieu. Que Dieu est Dieu, là. Moi, je suis humain, mais Dieu est Dieu. OK? On le met à part, dans une catégorie à part. Et quelqu'un à qui on doit révérence. Quelqu'un qui est au-dessus de nous. Ce n'est pas toi, Dieu, c'est lui. OK? C'est ça que ça veut dire, que ton nom soit sanctifié, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, ton règne, c'est quoi? C'est là où Dieu règne. Jésus enseigne à ses disciples de demander à Dieu de venir régner sur leur vie. OK? Que ta volonté soit faite. Jésus a dit, qui sont mes frères, mes sœurs, mes mères, ceux qui font la volonté de mon Père. Que ta volonté soit faite. Là, Jésus enseigne à ses disciples de prier comme ça. Et tout cela sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, j'ai une question pour vous. De quelle façon la volonté de Dieu s'accomplit-elle au ciel? De quelle façon s'accomplit La volonté de Dieu? Non? C'est une bonne réponse, c'est vrai? Non, au ciel. Au ciel. Au ciel, de quelle façon la volonté de Dieu s'accomplit-elle? Parfaitement! Parfaitement! C'est pour ça que Jésus, comme au ciel, la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement au ciel. Et là, il est en train de dire quoi? Que ta volonté s'accomplit sur la terre comme elle s'accomplit au ciel. De quelle façon? Parfaitement, sans entrave, sans exception, complètement. Et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. De quelle façon Dieu règne au ciel? Parfaitement, absolument. Le règne de Dieu au ciel est absolu. Il y a juste sur la terre que Dieu ne règne pas absolument. Pourquoi? Parce qu'il a donné une volonté aux êtres humains et la majorité des êtres humains ne veulent pas de Dieu. Mais là, Jésus dit, si vous êtes mes disciples, si vous êtes enfants de Dieu, voici le désir que vous devez exprimer dans votre cœur à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite parfaitement dans ma vie comme elle est au ciel, que ton règne vienne de façon absolue sur ma vie comme elle est établie au ciel. Pas vrai? Sans égal et sans rival. Donc, dans cette prière, il y a un enseignement profond de la part de Jésus pour toi si tu es son enfant, n'est-ce pas? Il t'enseigne à prier pour pouvoir reconnaître de façon totale et absolue comme maître, non seulement de l'univers, mais de ta vie. Et à lui demander que sa volonté s'accomplisse parfaitement dans ta vie, comme c'est le cas au ciel. En fait, juste un petit peu plus tard, Jésus ajoute ceci. Il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père. Et Jésus, plus tard, va dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont un jour dire, Seigneur, Seigneur. Et il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Vous ne pouvez pas rentrer. Oui, c'est ça. Parce que vous avez les paroles, mais vous n'avez pas la vie qui produit la volonté de Dieu dans ta vie. On a vu la Sainte... Mais là, Brian, es-tu en train de nous enseigner qu'on est sous un joug encore? La semaine dernière, tu nous as enseigné que nous jouissions d'une liberté nouvelle et affermie. Hein? C'est pour la liberté que Christ nous a affermis, disais-tu. Si je suis libre, comment expliquer ces enseignements du Christ qui m'obligent à faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a une contradiction? On a vu la semaine dernière que la nouvelle identité d'enfant de Dieu est exclusive. On a vu ça la semaine dernière. Paul nous enseignait dans Galates, tu es soit enfant et tu es libre ou tu es esclave et sous la servitude, sous un joug. Cette liberté de l'enfant de Dieu est celle-là de l'Esprit qui conduit les enfants de Dieu à faire la volonté de Dieu et non pour commettre le péché qui, en effet, est un esclavage. On a vu que être enfant, c'est d'être libre des principes rudimentaires de ce monde, de la religiosité. Et en fait, si tu es esclave de principes religieux, tu l'es aussi du péché, parce que Paul nous dit ailleurs que d'être sous un régime de « fais ci, fais pas ça », sous un régime de religiosité ou de loi quelconque, là, qu'est-ce que ça fait? Ça suscite le péché, ça excite le péché. Comme quelqu'un qui est sous un régime, là, il n'y a personne qui est tenté plus de manger la petite galette qui traîne sur le comptoir. que la personne qui suit un régime. Pas vrai? Paul nous dit que la loi suscite le péché, elle révèle le péché. Donc, si tu es esclave d'un système de principes religieux, tu l'es aussi du péché. On a vu que l'enfant de Dieu n'est plus sous le joug de la servitude à une loi, mais qu'il est invité par le Christ à se mettre avec lui sous son joug. Hein? Vous vous rappelez de ça de la semaine passée? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés. Prenez, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug. Le joug, ça a deux places. Fait que là, Jésus est dans une des places, il t'invite à prendre l'autre place. Et il dit, mon joug est facile et mon fardeau est léger. Pourquoi? Parce que c'est lui qui traîne tout. C'est lui qui a tout fait. Donc, oui, nous sommes libérés, mais libérés de quoi déjà? De la servitude à une religiosité, à des principes élémentaires ou rudimentaires, fais ceci, fais pas cela. Libéré du principe qui habite mon cœur, qui veut pécher et qui amène à la mort. Libéré pour être en relation avec celui qui m'a créé, qui m'a aimé jusqu'à la mort et qui m'a adopté dans sa famille. Et libéré parce que je retrouve ma vraie identité dans cette relation-là. Je retrouve ce pourquoi j'ai été créé. Comme un poisson, l'image que je vous ai donnée, c'est le poisson dans l'eau. Où est-ce que le poisson retrouve sa liberté? C'est dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est son identité. Et c'est dans l'eau, c'est ce à quoi il a été créé, ce pourquoi il a été créé. T'enlèves un poisson de l'eau, je t'ai libéré de l'eau. Tiens, t'es libre. Qu'est-ce qui va arriver? Il va mourir. Si on le remet dans l'eau, il dit non, mais là, il est esclave. Non, il n'est pas esclave de l'eau, il est libre. Il est dans l'eau. Il retrouve son identité, il retrouve ce pourquoi il a été créé. C'est la même chose pour toi et moi. C'est seulement dans la relation avec celui qui t'a créé que tu vas retrouver ta vraie identité, ta vraie liberté, ce pourquoi tu as été créé. C'est lorsqu'on se détourne de la source, de l'origine, que là, on devient esclave de toutes sortes d'autres choses. Si tu es l'enfant de quelqu'un, tu lui ressembles d'habitude. Et s'il est un bon papa, eh bien là, tu veux lui ressembler, n'est-ce pas? La Bible dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Quand tu es fils de Dieu, tu reçois l'Esprit, cet Esprit-là te conduit où? Dans les voies de Dieu. Dans les voies de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un Esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène encore à la crainte. On l'a vu ça la semaine passée, c'est la crainte de quoi? La crainte du jugement. OK? Pas la crainte dans ce sens-là. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Et c'est par cet Esprit que nous crions « Abba, Papa », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre Esprit témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. On a vu que Dieu non seulement adopté dans sa famille, mais qu'il met son esprit en ceux qu'il adopte. Et cet esprit-là tend à faire réfléchir, à ressentir et agir comme Dieu et à le servir avec amour. Dans le fond, si tu n'as aucun intérêt à ressembler à Dieu, le Père, qu'est-ce que ça dit sur ta position spirituelle? Si tu n'as aucun intérêt à ressembler réellement à Dieu, si ce n'est pas le but de ta vie, qu'est-ce que ça dit sur ta position spirituelle? Es-tu réellement son enfant? As-tu reconnu ta culpabilité devant Dieu, que tu mérites son jugement Et as-tu crié à Jésus-Christ pour venir te sauver, te pardonner, te justifier et te remettre en relation avec Dieu? Si tu ne l'as pas fait, qu'est-ce qui t'arrête? Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Dieu nous tend la main. Dieu est un bon papa. Il veut être réconcilié avec toi. Il veut que tu deviennes son enfant. Qu'est-ce qui caractérise un enfant de Dieu? C'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Ensuite, on va voir l'exemple de Jésus. Revenons à Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu, le premier, le plus grand, l'unique, puisqu'il est Fils depuis toujours. Voici les paroles qu'il a dites à ce sujet. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ma nourriture. Qu'est-ce que ça fait, la nourriture?
Ça fait vivre.
Ça fait vivre. Ça nous nourrit. Ça nous garde en vie. Hein? Une autre version, bien, il dit, la version du semeur, « Ce qui me nourrit, » leur expliqua Jésus, « c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Ce qui me nourrit. Vous savez, des fois, on a une expression, je ne sais pas si vous avez ça dans d'autres pays, mais au Québec, on dit des fois, « Ah, il aime tellement ça, il en mange. Il aime tellement ça, le football ou le hockey, il en mange. » Bien, Jésus est en train de dire ici, « J'aime tellement là, faire la volonté de mon Père, j'en mange. » Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu manges la volonté de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, ça devrait être le cas. Si ce n'est pas le cas, pose-toi des questions. Jésus dit, « Ce qui me nourrit. » Le contexte de ça, c'est que Jésus était au puits de Samarie, hein, puis... Il faisait chaud, c'était le midi, puis il arrive une femme. Lui avait envoyé ses disciples dans la ville pour aller chercher du pain. Puis il arrive une femme pour... Hein, puis il se met à converser avec la femme. Puis là, les disciples reviennent. Disent, Jésus, t'as rien mangé, tu dois avoir faim. Jésus dit, moi, ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus important que ton corps, les besoins de ton corps, puis la nourriture physique, c'est ton âme. La nourriture pour ton âme. Jésus dit, faire la volonté de Dieu, c'est ce qui me nourrit. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Jésus encore? Pour moi, je ne veux rien faire de mon propre chef, je juge seulement comme le Père me l'indique, et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus, son jugement était juste, parce qu'il ne recherchait pas ses propres désirs, ses propres intérêts, mais à faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il dit aussi dans Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Avez-vous remarqué comment ça, c'est à l'opposé complet du message de la société qui nous entoure? C'est le contraire. La société nous dit quoi? Fais ce que tu veux. C'est toi. Il faut que tu réalises tes rêves. Il faut que tu te épanouisses. Peu importe ton désir, fais-le. Peu importe ton rêve, réalise-le. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Jésus dit, mais moi, je suis pas venu pour faire ma volonté. Et ce qui distingue un enfant de Dieu comme Jésus et tous ses enfants, c'est qu'ils priorisent dans leur vie la volonté du Père et non la leur. Ils priorisent. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Hein? Puis dans une autre version, ça m'a frappé il y a 2 ou 3 ans, puis je l'ai dit à plusieurs, ça ne me fait rien de le répéter, parce que moi, ça me sidère à chaque fois. C'est la version qui dit, « Faites donc du royaume de Dieu votre préoccupation première. » C'est quoi une préoccupation? C'est une pensée qui est de toujours au premier plan, hein, dans ta tête, dans ton esprit, quelque chose qui te préoccupe. Tu t'occupes à quelque chose, mais il y a quelque chose qui te préoccupe. C'est une pensée qui vire dans la tête. Ça, là, c'est tellement important. Tu réfléchis à ça. Comment je vais y arriver? Ah, si seulement. Ah, mais là, il y a telle chose qu'il faudrait faire avant. Ah, il y a tel problème. Mais comment je vais arriver pour... Ah, ça me préoccupe, ça. Jésus s'en vient dire, « Faites du royaume de Dieu votre préoccupation première. » Wow! Wow! Oui.
Ça me rappelle quand je faisais une recherche biblique personnelle, quand Jésus disait ce peuple-là ne m'appartient pas. Ça m'a porté à réfléchir quand j'ai. Tu regardes la société aujourd'hui, mettons, c'est pas majoritaire la volonté de Dieu.
Non. Non. Non.
J'ai compris bien les choses parce que ça fait longtemps que je fais du cheminement.
Oui. Oui.
Le monde vient. Moi, j'ai cheminé avec des gens qui essayaient de vivre la volonté de Dieu.
Mm-hmm.
Et on me disait, et c'est difficile parce que dans le monde qu'on vit, on ne sait plus c'est quoi qui est vrai. C'est
oui, c'est ça. Exactement, Michel. Mais dans le monde, c'est l'homme au centre. Et si l'homme au centre essaie de faire la volonté de Dieu, c'est difficile. C'est impossible même. Il faut naître de nouveau, recevoir l'Esprit, et là, l'Esprit te rend capable d'avoir la pensée de Dieu, la volonté de Dieu et la puissance pour faire sa volonté. Mais des fois, on oublie ces choses. Qu'est-ce que Jésus a dit aussi? Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire le Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Il manque un mot. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. On a l'exemple de Jésus. Rien de ce que j'enseigne, il dit, vient de moi, j'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Wow! Encore, c'est pas fini. Il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire le crucifié, il dit, alors vous comprendrez que moi, je suis. Oh! Ça, le « je suis », c'est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Jéhovah. Vous comprendrez que moi, je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Je ne fais rien de ma propre initiative. Wow! Est-ce qu'on peut dire ça de moi? Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Est-ce que tu soumets tous tes projets, tous tes plans, toutes tes pensées, toutes tes paroles même à Dieu? C'est ce qui caractérise un enfant de Dieu. Ah, on n'est pas arrivé à la perfection, mais c'est ce à quoi on devrait tendre. On a l'exemple ici de Jésus. Jésus a dit ces choses-là, pourquoi? Pour nous écraser? Pour nous décourager? Ou pour nous donner un exemple? C'est pour nous donner un exemple. Puisque vous êtes les enfants, dit Paul dans Éphésiens 5:1, les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Je reviens. On voit par les paroles de Jésus que Jésus faisait toujours et exclusivement la volonté de Dieu. C'est le seul qui a réussi à faire ça parfaitement. Mais la question, c'est pourquoi? Pourquoi Jésus faisait-il, cherchait-il à toujours accomplir la volonté de Dieu? Bien, la réponse se trouve dans les textes. C'était la volonté de qui? De son Père. De son Père. Il était en relation avec le Père. C'est ça la réponse. C'est pour cela qu'il voulait faire cette volonté-là. La relation explique l'action. Jésus était dans une relation intime profonde avec le Père. Il éprouvait un profond respect, une révérence et un amour sincère pour son Père. Et c'est pourquoi il voulait faire la volonté de son Père. Jésus est notre grand frère qui nous montre la voie. Puis ce qu'il est en train de te montrer ce matin, c'est que cette volonté, cette soumission à la volonté de Dieu dépend de ta relation avec Dieu. Et Dieu désire que tu t'engages envers lui pour le servir et faire comme lui pour chercher sa volonté, exclusivement sa volonté. Mais le servir parce que tu es aimé, parce que tu lui appartiens, parce que tu es son enfant. On revient à Éphésiens. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, puisque c'est pas comme ça qu'on devient son enfant, c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on devient enfant de Dieu. Mais puisque tu es enfant de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Et ça aussi, ça me parle beaucoup. Que toute ma vie, est-ce que toute ma vie, toutes mes décisions sont dirigées par amour? La Bible dit « Dieu est amour ». Dieu est amour. Toutes les décisions que Dieu prend sont inspirées de l'amour. Est-ce que c'est le cas dans ma vie? Bonne question, hein? Le servir parce que je suis aimé, le servir parce que je lui appartiens, le servir parce que je suis son enfant, le servir parce qu'il est l'être le plus merveilleux et glorieux de l'univers et que je désire lui ressembler. Aussi, je pouvais voir Dieu vraiment. Si tu pouvais voir Dieu vraiment, sa beauté, sa grandeur, sa splendeur, sa puissance, sa sainteté. Si tu pouvais contempler Dieu dans toute sa gloire, là, dans toute sa gloire, bien, rien ni personne n'aurait plus d'importance pour toi. Tu serais saisi de cette vision-là. Tu serais complètement captivé par sa personne, de sorte que tu ne voudrais rien ni personne plus au monde que lui. Toujours plus de lui et lui ressembler. Tu auras enfin trouvé la personne la plus merveilleuse, la plus glorieuse, qui dépasse tout objet, toute relation qu'on peut trouver sur cette terre. Et tu serais enfin à la maison. Enfin à la maison. Tu aurais retrouvé la source ultime de ta vie, de ton être. Tu respirerais enfin. Tu dirais, je suis en vie maintenant. Avant, j'étais mort. Là, je suis en vie. Avec Dieu, devant sa présence immensément grande et glorieuse, tu serais renversé par vague après vague d'amour. Wow! Comment vouloir autre chose que Dieu et de lui ressembler et de faire comme lui? Tout dépend de la relation. Tout dépend de la relation. C'est pas ça que je voulais voir, c'était... En tout cas... Oui, c'est ça. Pierre dit, c'est pourquoi. Tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, votre ignorance de qui? De Dieu. OK? Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Qu'est-ce qu'on perçoit dans ces versets sur le fondement de l'exhortation à être saint, à ressembler à Dieu et à faire de sa volonté? C'est quoi le fondement? C'est la relation. C'est la relation. Comme des enfants obéissants. C'est la relation avec Dieu, comme Jésus est en relation avec Dieu, son Père. Et puis il dit, vous allez le voir. Tout ce que je viens de dire là, sur la personne de Dieu, de Christ, un jour ça va s'avérer. Mais on peut déjà marcher, hein, comme on a vu dans la série de l'espérance, là, on peut déjà marcher avec les yeux sur cette vision de la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit que celui qui a cette espérance en lui-même se sanctifie lui-même, se purifie lui-même, bien sûr, parce que tu vas le voir, tu vas être dans sa présence glorieuse. Tu veux être là, devant lui, ayant toute ta vie fait ta propre volonté? Ou toute ta vie ayant cherché à faire comme lui? Soyez saints, car je suis saint. C'est l'identité. L'identité à la fois de ta personne, enfant de Dieu, et celle de ton papa, Dieu trois fois saint. L'attente ferme, l'espérance d'être dans sa présence glorieuse dès le retour du Christ a un effet purificateur. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Donc, on a vu l'enseignement de Jésus, on a vu l'exemple de Jésus, et maintenant, je veux parler de l'engagement de Dieu envers toi et le tien envers lui. En réalité, Dieu est un Dieu d'alliance. Au pluriel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Partout à travers la Bible, on voit Dieu qui fait des alliances avec différentes personnes. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, le peuple d'Israël, David. C'est un Dieu qui aime entrer dans les relations sérieuses avec les êtres humains. C'est un Dieu qui s'engage. C'est un Dieu d'alliance. Ça prend du sérieux. Je riais il y a quelques mois parce que quelqu'un que je connais qui fréquentait quelqu'un d'autre, une femme, la femme a dit, écoute, elle a dit, ça prend du sérieux. Engage-toi, là. Elle voulait qu'il demande sa main en mariage. Ça prend du sérieux avec Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu qui s'engage. Lui, il s'engage et il s'attend à de la réciprocité. Il s'attend en retour que tu t'engages. C'est ça la nature d'une alliance. C'est un engagement de part et d'autre. Qui s'est engagé le premier? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait toujours le premier pas. C'est lui qui s'engage le premier. Et c'est tout un engagement. Écoutez, prendre la nature et le corps humain. Wow! Vivre parmi nous. Wow! Démontrer toute sa vie de l'amour sacrificiel. Wow! Pour enfin être trahi par un de ses proches et par son propre peuple. Wow! se laisser condamner et crucifier par des mains impies. Wow! Offrir son âme en sacrifice pour des péchés qu'il n'a jamais commis. Tes péchés? Tes péchés. Mes péchés. Tout un engagement. Tout un engagement. Jésus dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Conclue par mon sang qui a été versé pour vous. Moi, j'ai fait le premier pas. Moi, je me suis engagé envers toi. Moi, j'ai laissé le sang couler de mes veines. Moi, je me suis laissé humilier, moquer, rejeter, crucifier sur une croix pour toi. Voilà mon engagement. Et non seulement ça, il en rajoute. Il dit, « Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent les regards vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Que voulez-vous de plus? » Tout un engagement. Pourquoi tant souffrir avant de se convertir? Oui. 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 C'est une bonne question. C'est une bonne question. Oui. Oui. C'est une bonne question. La souffrance, c'est une grosse question. Mais je vais te dire une des réponses. La parole de Dieu dit, Dieu les humilia par la souffrance. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le cœur humain sait que Dieu est là, sait que Dieu est Dieu, mais ne veut pas de Dieu à cause de son orgueil. Et des fois, Dieu permet que la souffrance arrive dans nos vies pour nous humilier, pas pour nous détruire, mais pour qu'on se tourne vers lui et qu'on le reconnaisse comme Dieu. Nebuchadnezzar, un des plus grands rois qui a jamais vécu sur cette terre, il était extrêmement intelligent, extrêmement créatif, extrêmement puissant. Et un jour, il dit, « Regarde Babylone que j'ai construit. » Et là, Dieu va te montrer c'est qui Dieu. Et pendant 7 ans, il était comme un animal à brouter l'herbe dans les champs. Et la Bible dit, jusqu'au temps où ce qu'il se leva les yeux vers celui qui règne. Et là, la raison est revenue. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais qui refusent de lever les yeux, de lever les yeux vers le ciel. Alors, Dieu s'est engagé. Christ s'est engagé envers toi, tout un engagement, et maintenant, il attend la réciprocité. Il attend que tu t'engages envers lui. Si quelqu'un veut me suivre, disait Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, ce n'est pas une souffrance personnelle, comme une maladie, des phases d'affaires de même. Non, c'est la mort. C'est que tu dis non à toi-même et tu dis oui à Christ. La croix, c'est une méthode de crucifixion, d'exécution. C'est ça, la croix. C'est pas, ah, j'ai mal ici, j'ai mal là, il faut que je porte ma croix. Non, c'est pas ça. C'est Jésus, quelqu'un qui portait sa croix, il s'en allait où? À la mort. Fait que, si tu veux me suivre, prends ta croix, c'est-à-dire dis non à toi-même, meurs à toi-même et viens, suis-moi. C'est ça l'engagement. C'est ça l'engagement. Pardon? C'est la vie d'un disciple. Mais qu'est-ce qu'on découvre quand on fait ça? On découvre la vie. On découvre la joie. On découvre la vraie vie. Oui, on dit non à nous-mêmes. Mais là, on découvre la vraie vie. Veux-tu t'engager ce matin envers Dieu? Lui, il s'est engagé le premier. Il attend maintenant ta réponse. Oui? Non, 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 non. C'est de dire non à ta vie et oui à Christ. Je ne veux plus vivre ma vie où est-ce que c'est moi le roi de ma vie. Je veux vivre ma vie avec toi comme roi et père. Alors, Dieu, lui, a tout fait de son côté. Dieu tend la main. Il attend maintenant ta réponse. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ta personne ce matin. La plus grande révélation de ta personne, c'est Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils bien-aimé qui est au sein du Père, c'est lui qui l'a manifesté, qui l'a révélé. Merci, Jésus, de nous avoir révélé le Père. Le cœur du Père, le Père tellement aimant, tellement bon, tellement saint, à part du mal, du péché. Quel engagement tu as pris envers nous, Père. Quel engagement, Jésus. Et ce matin, tu tends la main. Tu attends qu'on dise oui. Oui, je le veux. Oui, je veux être ton enfant. Oui, je veux faire ta volonté, car il n'y a rien ni personne sur cette terre qui te ressemble. Rien ni personne qui vaille la peine comme toi, ô Dieu. Je retrouve en toi mon identité. Je retrouve en toi ma vie, ma raison d'être. Ce matin, je me détourne de ma vie que j'ai menée selon mon bon sens, selon ma propre volonté et qui est truffée de péchés. Merci Jésus d'avoir porté sur toi le jugement de mes péchés. J'accepte ton offre. J'accepte ton offre, Seigneur, de prendre ma vie et de me donner ta vie. Merci, Père, que ton nom soit glorifié dans tous les siècles. Amen. Charles.